cas, j'étais direct.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être ici aujourd'hui malgré les intempéries, le froid et problèmes de transport. Donc aujourd'hui, Bilal et Sofiane nous font le plaisir d'animer la séance de jour, donc sur la notion de mécréance et sur les notions aussi d'égarement, de voie droite, etc. Simplement, avant de commencer, on aimerait faire un petit débriefing de ce qu'on avait pu voir à Lyon. Donc la dernière fois, on était sur Lyon. Et on a été très bien accueillis, on est vraiment contents, ça nous a fait vraiment un grand plaisir de discuter avec de nouvelles personnes dans une nouvelle ville. Donc on va essayer le plus possible de changer un petit peu de ville pour essayer au mieux de se diversifier au niveau géographique. Et le 19 janvier, donc on va à Bruxelles, grâce notamment à Bilal, pour, pareil, essayer de présenter l'association, et grâce à Baudouin et Salvois, notre pôle Belgique va se développer avec beaucoup de vivacité. Et donc, ce sera le 19 janvier. Donc, à partir de 14h30 jusqu'à 18h, on refera un petit peu de la publicité par rapport à tout ça. Donc, je laisse la parole à Bilal et à Sofiane. Donc, merci à vous.
Merci, Eva. Maintenant, on va vous parler un peu du coffre. Et avant tout, on va essayer de voir un peu la signification, les différentes significations du mot coffre. Coffre de la racine kafara, veut dire en arabe couvrir. Surtout dans l'agriculture, l'agriculteur, quand il met la graine dans la terre et la couvre, cette action est citée en arabe kafara. Et celui qui fait cette action, le cultivateur, on le cite, les cultivateurs kofar. Comme dans le verset 20 de la sourate 57 d'El Hadid, le fer, elle est en cela pareil à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, kofar, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris. كمثل غيث أعجب الكفار نباتهم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي آخرة عذاب شديد. Ici, le mot « coffre » désigne son sens un peu utilisé avant l'islam, « couvrir ». Un autre sens aussi utilisé en arabe, « al-kafar ». Avec « alif walam », « al-kafar », ça désigne les montagnes qui cachent la route. Et ça peut désigner aussi une localité, comme en Égypte, on dit « al-kafar ». La troisième signification, c'est « voilé ». On dit en arabe « kafara al-laylul hukul ». La nuit a voilé les champs. Un autre sens, dissimuler ou effacer. « Kafara », il a dissimulé, il a effacé. Dans le verset 2 de la sourate 47, Muhammad, « Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et si la vérité venant de leur Seigneur, ils leur effacent « kafara » leurs méfaits et améliore leurs conditions. Je la cite en arabe. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Un autre sens du mot kufr, c'était aussi dans le Coran, c'est dans le sens renier. Et là, c'était dans le verset au sujet de Shaytan, diable, dans la sourate 14, Ibrahim. Le verset 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira : certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je veux renier kafartu de m'avoir jadis associé à Allah. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Là, le mot kofr dans le Coran, c'était dans le sens renier. Ça, c'est dans le mot en lui-même. Et maintenant, on va essayer de voir un peu quels sont les différents sens que peut prendre le mot kofr dans les différents versets du Coran. Et là, j'utilise une technique d'opposition du mot kofr avec plusieurs concepts aux valeurs dans le Coran, pour voir un peu, dans certaines situations, quel sens renvoie au mot « kofr ». La première, il y en a plusieurs et j'en ai pris à peu près 6. Il y en a encore d'autres dans le Coran. Qu'offre en opposition de la croyance. Comme dans la sourate 64, Tarabun, la grande perte, le verset 2. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants, kafir, et croyants, mu'min. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Là, c'est le coffre en opposition à la croyance. Donc, c'est contre la croyance. Aussi, dans le verset 29 de la sourate 18, la caverne est dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il m'y croit. Là, le coffre est en opposition à la croyance. Une autre situation où le coffre est en opposition à taqwa, crainte révérentielle ou se prémunir, comme l'a dit Sophie. Dans la sourate 39 à Zomor, les groupes, dans les deux versets 71 et 73, dans le 71, et ceux qui avaient mécru, kafaro, seront conduits par groupe à l'enfer. Dans le verset 73, et ceux qui avaient craint et taqaw, leur Seigneur seront seront conduits par groupe au paradis. Je vous lis en arabe. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Il y a aussi d'autres versets que je ne vais pas tous citer. Une autre situation où le coffre est en opposition au shukr, au remerciement. Il s'oppose au remerciement. La sourate 14, Ibrahim, le verset 7. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, kafartum, mon châtiment sera terrible. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Là, le coffre est en opposition au remerciement. Aussi dans la sourate l'Insan, l'homme, 76, verset 3. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant, shakira, ou ingrat, kafura. Là, le mot coffre dans kafura. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Donc, soit il remercie, soit en opposition au remerciement. Il y a d'autres aussi, la sourate Luqman, etc. Je ne vais pas tous les citer. Une autre situation où le coffre est en opposition à l'ihsan, que j'ai traduit par philanthropie, bienfaisance, charité, etc. Sourate Zomor 39, le verset 58 et 59. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serai alors parmi les bienfaisants. Al-Muhsinin, le verset 59. Oh, que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es gonflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants, kafirin. Je vais le citer en arabe. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Une autre situation où le coffre est en opposition à l'amal as-salih, les bonnes œuvres. Sourate 30 à Rome, les Romains, verset 44. Celui qui aura mécru, kafara, subira les conséquences de son infidélité, kufra. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir. Man kafara fa alayhi kufrah wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun. Là, le coffre est en opposition aux bonnes œuvres, à l'amal salih. Une dernière situation dans le Coran, c'était dans le Coran, où le coffre est en opposition à l'huda. Le huda, la bonne guidance ou le droit chemin. Par rapport à l'huda, au droit chemin, le coffre dans le sens refus de croire, malgré la bonne guidance, l'huda, vers le droit chemin. Et avant le refus, il y a la guidance. Et cette guidance, il faut qu'elle soit bonne et parfaite. Sinon, le refus serait plus sur la manière d'exposer le droit chemin que sur le droit chemin lui-même. Il y a un hadith où il y a des conditions par rapport à ça. Comme dans Sourate 47, Muhammad, verset 32, ceux qui ont mécru et obstruent le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers, après que le droit chemin leur fut clairement exposé. Ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vain leurs œuvres. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Voilà donc quelques situations où le kofr est cité dans le Coran, mais en opposition à plusieurs concepts dans le Coran. Et globalement, les différents sens qui sortent du mot kofr, c'est refuser la vérité, cacher la vérité, nier le droit chemin, ne pas croire au message coranique prophétique, refuser les valeurs de l'islam, les bonnes œuvres, la bienfaisance, le remerciement, la dévotion à Dieu. Et cinquièmement, l'ingratitude, al-juhud. Maintenant, on va passer au concept et sens de takfir. Le takfir peut signifier normalement une action qui vise à effacer les péchés. Kaffarat dhunub. Une sorte d'expiation ou de réparation ou de compensation. Comme dans le verset 89 de la sourate 5, la table servie, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Et là, dans le cas d'un serment, quelqu'un qui fait un serment et qu'il n'exécute pas, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir des pauvres, et c'est l'expiation le kafara. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave, quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation, kafaratun, pour vos serments. Je ne vais pas vous lire en arabe, donc fasiyamu thalathatu ayyam dhalika kafaratu aymanakum. Au cas où quelqu'un fait un serment et qu'il ne le tient pas, ben soit il donne à manger à des pauvres, ou bien, et s'il ne trouve pas, ou les habiller, ou libérer un esclave. Et s'il ne trouve pas, 3 jours de jeûne. Voilà, merci. Ensuite, le takfir prendra un tout autre sens. Celui de désigner un tel kafir. Takfir, désigner quelqu'un de kafir. Celui-là, il est kafir. Cette action-là, ça s'appelle takfir. Suite à un péché capital ou autre chose. Comme une excommunication chez les chrétiens. La jeunesse de ce takfir se situe généralement pendant les guerres entre Ali et Muawiya, la bataille du Chameau, les batailles de Siffin, après l'assassinat du troisième calife Othman. Il y a eu querelle sur qui prendra le pouvoir et des batailles armées ont éclaté entre les deux camps, Ali et Muawiya. Dans cette situation, plusieurs compagnons se sont mis à l'écart. En fait, les compagnons qui se sont mis à l'écart, il y en avait ceux qui étaient déjà là-bas sur place à Médine. Donc, quand la querelle a éclaté, il y en avait d'autres. Il y avait plusieurs compagnons qui étaient dans les guerres à l'extérieur. Et quand ils sont rentrés de campagne de guerre, ils ont trouvé des problèmes. Ils ont dit qu'on vous a laissé, ça se passait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous êtes en querelle entre vous. Donc, ils se sont mis à l'écart. Et on leur dit « atazalou » de l'artisan. Et il y a un certain, pour ceux qui veulent expliquer un peu le mot matazilite, il y en a qui disent que ça vient aussi de ceux-là, des gens comme ça. Et cela ne veut pas dire qu'ils ont laissé faire sans réagir, ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis à l'écart sans réagir, mais plutôt ne pas participer aux différentes batailles, ni avec l'un, ni avec l'autre. Mais la question s'est posée, il y a eu des morts musulmans, tués par des musulmans. Comment est-ce possible? Tout le monde savait qu'un musulman ne peut tuer un autre musulman, c'est un péché capital. Et avant ça, ça a d'abord commencé par les guerres de sécession, Hurub al-Ridda, à l'époque d'Abu Bakr, premier calife. Et là, l'irtidad, dans le sens retour en arrière, revenir à l'état de kafir après avoir annoncé son islam. Ces guerres étaient plus politiques qu'autre chose, c'était pas dans une action religieuse, c'était plus une action politique parce que c'était les débuts de l'islam. Il s'agissait tout simplement de la survie de l'islam et de sa continuité où il y avait ces guerres. Et après ces guerres, il y a eu quand même une période d'accalmie qui a permis à l'islam de conquérir la Perse, le Cham, la Syrie et l'Égypte. Viendra ensuite l'assassinat du troisième calife et les querelles sur le pouvoir. Des guerres fratricides entre musulmans, et c'est là que le takfir a été employé par certains comme outil d'excommunication et du coup permettre le combat et la mise à mort. Et c'est le moment que plusieurs, c'est à ce moment-là que plusieurs questionnements se sont posés sur celui qui a commis un péché capital, est-il kafir ou non? D'autres questions se sont posées aussi durant le califat Umayyad sur la nature du calife, de l'imam, et sur Al-Qadr, la destinée ou le libre arbitre. Ces questionnements ont mené à l'apparition de plusieurs courants de pensée, et notamment le courant mu'tazilite. Et là, je passe la parole à Bilal pour continuer un peu aux explications.
Donc mon analyse va plutôt se porter sur le côté juridique et historique. Je ne vais pas aborder les mêmes questions que Sofiane a abordées là à l'instant. Donc, mais je vais revenir sur le passage de la bataille de Siffin. Donc, lors de cette bataille, bon, il est bien connu que Ali ibn Abi Talib a, avec son opposant principal Muawiya, a tenté un arbitrage. Donc c'est plutôt Muawiya qui a tenté un arbitrage avec Ali. Et suite à cet arbitrage-là, nous avons eu un groupe qui est apparu. Donc c'est une scission du groupe de Ali, donc des partisans de Ali, qui ont estimé que Ali commettait un péché capital. Donc eux estimaient que le hukm revient, le hukm, donc la gouvernance ne revient qu'à Dieu, et qu'il commettait là un grand péché, donc ils l'ont sorti de l'islam. Il s'agit de la première excommunication. Vraiment, c'est la première fois où on excommunie quelqu'un contre son choix. Donc ces gens-là vont être appelés les Khawarij, donc les Kharijites. Donc ces derniers se sont séparés en plusieurs groupes, quiétistes et activistes. Donc les activistes sont sécessionnistes. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que toutes les terres qui sont dirigées par le calife étaient considérées comme Dar al-Kufr. À partir du moment où elles étaient considérées comme Dar al-Kufr, donc ça devient Dar al-Harb, donc la demeure du combat, de la guerre. Donc il fallait attaquer les musulmans. Mais ils considéraient que leur propre territoire, donc ça c'est la position de Nafi ibn Azraq, donc le fondateur de ce groupe activiste, considérait que sa propre terre était Dar al-Hijra. Donc Dar al-Hijra, donc les personnes qui étaient d'accord avec lui devaient venir sur ses propres terres pour porter l'attaque sur les autres territoires tenus par les autres musulmans, qu'ils ne considéraient plus comme musulmans. Et là, ça fait rappeler quelque chose d'assez contemporain, toute cette histoire. Bien entendu, on voit bien qu'il y a une inspiration des groupes actuels, des groupes djihadistes actuels. Là, on revient vraiment à cette notion de hijra et cette notion de tekfir, et surtout de considérer que toutes les terres musulmanes ne le sont plus. Donc, ici, bien entendu, comme ce groupe était considéré comme, enfin, était juste que bouddhiste, donc allait un peu trop loin dans le meurtre, certains de ses partisans ont décidé de se séparer encore de son groupe et ont fondé des groupes plus quiétistes. Donc c'est le cas des Ibadites et des Soufriyas. Ici, on va parler de groupes quiétistes et unionistes. Pourquoi unionistes? Puisqu'en fait, ils vont considérer que la nation musulmane doit rester unie, mais que le changement doit avoir lieu de l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle d'union. Mais ils vont quand même considérer que l'auteur d'un grand péché sort de l'islam. Donc, il y a une version duale. C'est-à-dire que si vous commettez des grands péchés, vous sortez automatiquement de l'islam purement et simplement. Donc il y a deux groupes, le musulman et le non-musulman. Donc, argument et origine du principe. Comme j'ai stipulé juste avant, le Nafi ibn Azraq est le fondateur de la branche sécessionniste. Donc, comme on estimait que Dar al-Harb était vraiment le territoire des non-musulmans, enfin, même si les terres califales étaient considérées comme non-musulmanes, on part du principe que la guerre devient plus simple, puisque comme on retire l'islamité aux musulmans, leurs biens deviennent halal, leurs personnes aussi, ils ont tous les droits. Ça devient très simple, finalement. Mais, comme je l'expliquais juste avant, cette idéologie a fini par disparaître au profit de groupes plus quiétistes, heureusement. Mais ils ont pu survivre jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les Ibadites principalement. Ils ont survécu, bien entendu, sur l'île de Djerba, en Tunisie, dans le Mzab en Algérie, en Libye, à Zanzibar, ainsi que dans le Sultanat d'Oman. Mais il faut savoir que Kharijite était un terme que n'acceptaient pas eux-mêmes. Hein. Donc eux s'appellent plutôt les Jama'at al-Muslimin. Hein. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes les Kharijites. Hein. Sinon, ce serait un
c'est
peu. C'est les autres qui les appelaient comme ça. C'est un peu péjoratif. Donc, je vais d'abord poser. Ici, je vais analyser les différentes positions par rapport au tekfir des différentes écoles théologiques. Donc, on va aller de la plus rigide à la plus. À celle considérée comme la plus libérale. Ici, le kharijisme, on va revenir là-dessus. Eux, les groupes quiétistes différenciaient le kufr ni'ma, donc l'ingratitude à l'égard des bienfaits divins, et le kufr milla, c'est-à-dire le rejet de la souveraineté divine. Et le kufr milla est assimilé à l'apostasie. Donc on sort la personne de l'islam. Le mu'tazilisme, par contre, avait une toute autre approche. C'est ça que certains auteurs disent que c'est le kharijisme qui va. Enfin, la position kharijite sur la question va évoluer au sein du mu'tazilisme. Le mu'tazilisme va créer un autre concept, c'est celui de Menzil Bayna Menzilatayn, donc la position de la demeure intermédiaire, c'est le quatrième principe. On va considérer qu'il y a trois catégories de personnes. Le musulman, donc le mu'min, mm-hmm. le kafir, et entre les deux, vous avez le fasiq. Donc le fasiq, c'est une personne qui est entre les deux, qui n'est ni musulman ni non-musulman, et qui n'a pas les mêmes droits que le musulman, qui ne sont pas les mêmes que ceux du kafir. Donc c'est vraiment entre les deux. Mais je vais y revenir plus tard. Et il faut savoir que le transgresseur, d'après la pensée mu'tazilite, peut revenir dans le giron des musulmans lorsqu'il aura fait l'objet d'un repentir sincère. Donc il peut revenir durant son existence. S'il ne revient pas, s'il ne se repent pas, il ira en enfer, mais de manière éternelle, puisqu'on considère qu'on ne peut pas sortir de l'enfer. La position mu'tazilite indique qu'on ne peut pas sortir de l'enfer. On y entre et khalidina fiha, comme on le dit. Mais bien entendu, le repentir est toujours là, comme dirait le célèbre verset qu'avait cité Soufiane la dernière fois.
Excusez-moi, je m'excuse, je vous ai dit que c'était Surat al-Hadid, mais c'était Surat al-Zumr.
Al-Zumr, oui.
Les gros pas.
Donc la position du sunnisme, par contre, elle est beaucoup plus complexe. Je vais m'attarder là-dessus un moment pour pouvoir comprendre pourquoi ils se sont opposés au mu'tazilisme sur cette question. Position du sunnisme, bon, le sunnisme n'est pas né comme cela, il est né en opposition, bien entendu, aux différents groupes, donc aux kharijites et aux mu'tazilites, principalement. Le sunnisme, en fait, n'a pas d'idéologie claire vis-à-vis du tekfir. C'est assez bizarre. On entend beaucoup de choses, finalement, mais la position donc sunnite va s'opposer à celle des deux groupes que je viens de citer. On estime que même une personne qui s'est rendue coupable des kaba'ir, donc des péchés capitaux, reste musulmane. Elle reste, quoi qu'il arrive, musulmane. Sauf pour un seul péché, c'est l'association.
Shirk.
Le shirk. Donc on considère que le shirk est la seule chose qui fait sortir la personne de l'islam. Comme le dit un verset, Dieu ne pardonne point qu'on lui associe d'autres divinités. Hormis cela, il pardonne à qui il veut. Mais les mu'tazilites ont une autre signification de ce verset, à qui veut être pardonné. Sinon, c'est une version, une vision à charite. Ici, il n'y a pas proprement parlé de liste exhaustive de péchés capitaux. Parce qu'en fait, bon, les péchés capitaux, c'est un peu tout et n'importe quoi. On a des versets, un hadith qui parle de trois péchés capitaux, donc le shirk, le fait de désobéir à ses parents, et le faux témoignage. D'autres qui parlent de sept, et même certains hadiths vont jusqu'à 70 péchés capitaux. Mais Zahabi, Al-Zahabi, qui est un célèbre théologien, juriste surtout, Shafiri, qui est mort en 1348, va s'essayer à une liste exhaustive en essayant de trouver des interprétations de plusieurs hadiths, surtout, en particulier. Mais le musulman coupable de ses péchés, il est aussi considéré comme transgresseur. On va réutiliser le terme mu'tazilite, mais tout en disant qu'il ne sort pas de l'islam. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, comme l'association divine est la seule chose qui fait sortir une personne de l'islam, qui peut entraîner un takfir, le fiqh permet quand même de faire revenir ce principe par la petite porte. Pourquoi ? Je vais développer cela. Donc les théologiens, pour la plupart hanbalites, vont petit à petit réintroduire une conception plus large du tekfir. Petit à petit. C'est-à-dire, allons jusqu'à rivaliser avec les principes des Azraqites. Hein. Donc le retour clair à cette pratique se fera du temps d'Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa, où là, clairement, il accuse de kufr plusieurs groupes, enfin tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, en gros. On a Mohamed ibn Abdul Wahhab, qui va parler des dix nawaqid, donc des actes annulants l'islam. Et c'est là où c'est intéressant. Imité plus tard par Saïd Qutb et ainsi que les groupes salafistes actuels. Hein. Mais comment ils vont faire pour élargir ce principe? On va élargir la définition du shirk. Parce que quand on va voir dans les dix nawaqid, donc dans les dix actes annulants l'islam, on en a une dizaine, mais on va... je vais citer quelques-uns ici pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Il y a bien entendu le polythéisme, qui est une forme de shirk, bien entendu, celle-là, elle est claire. Ce n'est pas un problème. Par contre, celui qui cherche un intermédiaire. Donc là, on vise clairement les soufis, ouvertement. Eux sont des mouchriquins. Donc si c'est mouchriquin, tsakfir, ouvertement. Celui qui ne considère pas les polythéistes comme mécréants. Celui-là, considéré comme c'est du shirk, donc tsakfir. Celui qui a la conviction de la vie autre que celle du prophète. Donc ça veut dire celui qui... il rabaisse la chose que le prophète a autorisée. C'est-à-dire la personne qui met en doute certains hadiths. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes critique des hadiths, c'est du shirk. Donc si c'est du shirk, le tekfir peut s'appliquer aussi à ces personnes-là. Etc. C'est pour ça que je parle d'élargissement du principe. Parce que la seule manière de l'élargir, pour ne pas contredire les premiers théologiens, c'est d'élargir cette définition-là. Donc vraiment... Et là, on arrive à faire entrer tout et n'importe quoi dans ce concept-là. Donc c'est pour ça que je parlais de retour à la petite porte.
Les hadiths, on parle desquels? Même ceux qui sont faux.
Tous.
Si vous mettez en doute le fait qu'un hadith soit... Oui, mais là c'est de manière... parce qu'il n'est pas connu...
On est mal, quand même, là.
Ah oui, clairement, parce que... Ibn al-Wahhab ne s'embarrasse pas de détails, lui. Lui, il dit les choses de manière assez très cash et... très simple, pas nuancé du tout. Et ses livres ne sont pas très fournis, on va dire. Hein. Donc il dit des choses de telle manière, il n'y a pas de nuance. Et c'est très basique, effectivement.
Et donc, juste pour bien comprendre, là, cette position, c'est la position des sunnites.
Des wahhabites. Je ne pensais pas le sunnisme en général, mais c'est l'école hanbalite. C'est l'école plus ou moins hanbalite, puisque le wahhabisme provient de l'école. Ibn Hanbal se base sur les écrits d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Hanbal aussi. Hein. Donc,
Ibn Taymiyyah n'avait pas cette position-là.
Pas tout à fait.
C'est la branche radicale du sunnisme.
Mais Ibn Taymiyyah a quand même dans Majmou' al-Fatawa
qui fait cette interprétation
des dix. Il était plus nuancé,
mais. Pas par ailleurs, mais.
Bien entendu.
Si on restitue la pensée de quelqu'un, est-ce que j'en veux.
Oui, mais il parle de il parle de kufr de beaucoup de. Enfin, il parle de. Pas de kufr, mais d'actes qui mènent vers le kufr. Et il cite Ibn Arabi aussi, il cite beaucoup de personnages, beaucoup de groupes, etc., où ils disent qu'ils font du kufr. Ça ne veut pas dire que c'est des kufr, mais il dit qu'ils font du kufr.
Il dit plusieurs fois, Majmou' al-Fatawa, il y a beaucoup de takfir et beaucoup tel et tel kafir. Ou les tuilés. Donc, même avec l'acte.
Mais c'est son livre le plus emblématique. Hein. Là, si vous lisez ce livre-là, au bout de vous en avez des dizaines des accusations de kufr. Hein.
Et ça n'empêche pas Ibn Taymiyyah, son côté aussi logique, son côté qu'il a fait. Hein, c'est pas. Mais les Wahhabites, ils ont pris ce côté-là des fatawis. On reviendra aux questions si vous voulez. On parlera.
On y reviendra plus tard.
Excuse-moi. En fait, quand tu reprends la parole ou l'ordre wahhabi qui dit qu'il ne faut pas rabaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sinon ça te fait rentrer dans le shirk, ça n'est pas la même chose que de remettre en question les hadiths. C'était cette
question-là que je voulais dire. Oui, mais ça revient.
Même ils font de l'étude de hadiths encore.
Bien entendu, ils le font, bien entendu. Mais une personne qui remet en cause, par exemple, la prépondérance du hadith, c'est-à-dire le fait qu'on tienne le hadith comme une source première, c'est ça aussi c'est considéré comme pas, je veux pas dire du shirk, mais c'est fort combattu par les wahhabites. Hein. Les wahhabites ne vont jamais accepter que quelqu'un dise que un hadith ne peut pas être considéré comme une source première de l'islam. Moi, je considère personnellement, c'est mon avis et celui de beaucoup de personnes, qu'un hadith, comme on ne peut pas prouver la véracité de la plupart des hadiths, pour moi, ça ne peut pas être de source indiscutable. Ça peut, mais bon, c'est un autre débat. Mais je continuerai. C'est une interprétation. C'est pas dit clairement. Donc, bon, bien entendu, je vais parler d'un autre groupe, c'est considéré comme le plus libéral sur la question, c'est les Murji'a. Donc, eux,
c'est cool.
Eux, c'est les plus cool. ça provient, le terme Murji' vient du terme Ija'a, donc ça veut dire remettre à plus tard. Pourquoi on parlait de cela? Je vais plutôt parler de la forme Jahmiya des Murji'a. Ils estiment que les œuvres ne font pas partie de la définition de la foi. Donc, à partir du moment, quels que soient vos actes, si vous êtes musulman, vous le restez jusqu'à la fin de votre vie. Et vous ne devez pas être puni sur terre. Donc c'était vraiment la version la plus libérale. Et pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que c'est considéré comme un sobriquet actuellement. C'est-à-dire que lorsque on considère un théologien comme trop libéral, on va l'accuser de murjisme. Oui. Généralement, actuellement, c'est ce qu'on fait. Donc on va dire, oui, lui, il est trop libéral, trop... Donc c'est un mourgite. Voilà, on a accusé beaucoup de théologiens de ça devient un sobriquet finalement.
Abu Hanifa.
Oui, Abu Hanifa, on l'a accusé de mourgisme. Oui, effectivement. Parce qu'il séparait les actes de la foi et on l'a accusé de mourgisme. Surtout la plupart de ses opposants l'ont accusé de mourgisme. Donc les conséquences pratiques. Le takfir sera traité au niveau du droit musulman. Donc les jurisconsultes donnent une série de règles pour encadrer cette pratique. Donc le hanbalisme va introduire le concept de kufr divisé en deux catégories. Donc on a kufr al-akbar, donc le grand kufr, et le kufr asrat, donc le kufr mineur, qui ne fait pas sortir de la religion lui. C'est pour ça qu'il y a une interprétation, comme je disais sur les écrits d'Ibn Taymiyyah, ils vont dire, ah mais non, ce kufr-là, c'est un kufr mineur, donc il ne fait pas sortir de la religion, etc. C'est une des interprétations qui peut être donnée au texte d'Ibn Taymiyyah. C'est pour ça que je voulais en revenir ici. Mais la personne qui est touchée par le takfir, donc le fait de sortir de la religion, doit bien entendu être exécutée. Ça, c'est la vie générale. Et cette personne ne peut pas hériter du musulman. Puisqu'elle sort de l'islam, elle ne peut pas y hériter. Par contre, pour le mu'tazilisme ici, la personne qui est dans la demeure intermédiaire, il va subir aussi une conséquence juridique. Donc le Qadi Abd al-Jabbar qui est mort en 1025, dans son Usul al-Khamsa, donc les cinq principes, il va expliquer ce qui suit. Parlez-moi de la demeure intermédiaire, de quoi s'agit-il ? On sait que la personne qui a tué, commis l'adultère, ou est à l'origine d'un grand péché, est un transgresseur, donc un fasiq. Il n'est pas croyant, ses droits ne sont pas ceux du croyant, parce qu'il est maudit et désavoué. Ce n'est pas un mécréant, ses droits ne sont pas ceux du mécréant, il n'est pas enterré aux côtés du musulman, et il n'épouse pas une croyante. C'est aussi simple que ça. Son statut est une position intermédiaire, contrairement au statut mécréant des kharijites ou du croyant tel que le concevaient les murjites. Là où c'est intéressant, c'est que le Qadi Abd al-Jabbar va clairement faire une différence avec le concept des kharijites et des murjites. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que le Qadi Abd al-Jabbar est considéré comme un mu'tazili tardif. Donc il va être fort influencé par le fiqh et le sunnisme triomphant à ce moment-là. Le mu'tazilisme à cette époque, bien entendu, ce n'est plus la génération de l'Jubair et la génération des pères fondateurs du mu'tazilisme. Ici, ils vont devenir beaucoup plus sunnito-compatibles, on va dire. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que, je vais faire une petite conclusion. Comme le mu'tazilisme, la source première du mu'tazilisme est la raison, pour ma part, il n'est pas impératif de suivre ces analyses anciennes. Et là, clairement, on a un exemple clair d'un principe qui ne doit pas forcément être suivi à la lettre. Donc, ils avaient peut-être du sens à l'époque où ils ont été mis sur papier, mais prononcer le takfir ou décréter qu'un musulman est fasiq, créer des effets juridiques. Donc, les positions citées, qu'elles soient mu'tazilites ou pas, soyons clairs, avaient comme origine, normalement, le credo, donc la aqida. Mais, elles ont été formulées au service du droit. Et ça, on le voit bien. Donc, la position de Qadir al-Jabal, elle est claire. On voit bien que ça a été fait au service du droit. Or, ici, enfin, or actuellement, ici, surtout ici en Europe, et en France et en Belgique en particulier, le droit positif est mouvant, il est évolutif. Donc, comme il est évolutif, bon, pour ma part, il devient plus ou moins caduque quand il s'oppose au droit positif. Donc, on peut très bien repenser tous ces anciennes pensées. Donc, le principe de la demeure intermédiaire, il est intéressant en soi, parce qu'il permet de ne pas laisser en musulmans, enfin, des personnes qui pourraient être détestables. Là, je vais plutôt donner l'exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure des djihadistes. On ne peut pas décemment dire que ces personnes restent musulmanes et que ce n'est pas grave. D'ailleurs, il suffit d'observer les positions de l'Azhar en 2015. Ils étaient vraiment très... ils étaient très gênés à l'idée de retirer l'islamité à ces gens-là, parce qu'ils disaient qu'ils ne font pas de kaba'ir. Donc on ne peut pas considérer que ces gens ne sont pas musulmans. Et effectivement, ils sont honnêtes. C'est-à-dire que la théologie sunnite ne permet pas de sortir ces gens-là de l'islam. Donc il faut peut-être repenser tout cela. Et pour ma part, cette position intermédiaire peut être considérée comme intéressante. Sauf si, bien entendu, on est plus du côté des karijites, mais là, c'est un débat. La clé serait peut-être de revenir au sens premier du terme kafara, comme on le disait tout à l'heure, et de rafara, qui a plus ou moins la même racine, et de produire une étude qui prend en compte simplement le credo, donc la aqida, sans qu'un effet juridique vienne lui donner une conséquence ici-bas. Donc ça, c'est mon avis, c'est qu'on doit vraiment séparer les deux et ne plus trop penser à l'effet juridique de tout cela, de voir cela de manière tout à fait nouvelle. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel et je vais laisser Sofiane donner la conclusion de la conclusion.
Voilà. Pour conclure un peu, on a vu un peu le sens de coffre, de takfir, etc., de sa jeunesse, etc. Et on a bien vu que finalement le takfir, c'est plus une instrumentalisation de la religion pour la politique. Ce qui emmène jusqu'au takfir d'aujourd'hui pour de désigner un tel kafir, en quoi il serait kafir. Et je finirai par un titre de Nasser Hamed Abouzeid, d'un de ses livres, après son souci avec le takfir. Il a subi ça lui-même. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tafkir fi zaman takfir ». Regardez bien qu'entre les mots « tafkir » Takfir, c'est exactement les mêmes lettres utilisées. Et ce livre, il a écrit « At-tafkir ou fi zaman at-takfir » dans le sens où on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de dire notre avis, même si on l'écrit dans un livre. Ah, pardon, « At-tafkir fi zaman at-takfir », c'est penser, réfléchir, merci, dans une époque de takfir, de
communication.
Tiens, j'ai oublié de
sortir. D'excommunication.
Et c'est dans le sens où c'est au-delà d'un péché capital ou il a commis tel ou tel ou un avis juridique, etc. C'est surtout par rapport aux pensées. C'était un combat d'idées. C'est des pensées qui s'opposent entre elles et l'une essaie de déposséder l'autre, de lui donner ce takfir et tel, etc. Donc essayons d'ouvrir un peu nos esprits et de sortir un peu de cette histoire de takfir. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci, c'était super intéressant. Donc on enchaîne toujours sur un temps de discussion. J'aurais une première question, enfin remarque, par rapport aux mourjites, justement. On a souvent dit que les mourjites étaient... ceux qui estimaient que les actes ne comptaient pas. Alors je me demande quand même s'il n'y a pas eu quand même au cours du temps des formations, parce que les mourjites ont été, comme d'autres écoles théologiques, toujours considérées comme voilà, les plus cool, les laxistes, etc. Après, je me demande quand même si cette question sur les actes qui ne comptent pas n'est pas justement une déformation. C'est-à-dire que les mourjites, ils se sont avant tout posé la question donc de la suspension du jugement, avec, vraiment c'est la signification du terme, le fait de repousser à la fin le jugement, et surtout je dirais que les Mourjites se sont posés la question de qui a le droit de juger que quelqu'un est kafir ou pas forcément kafir avec des catégories intermédiaires, etc. Ils se sont surtout posé cette question là, c'est à dire qu'ils se sont dit les êtres humains n'ont pas le droit de finalement juger si quelqu'un rentre dans telle ou telle catégorie juridique. Et du coup, par rapport justement à Anas Kabouzaïd, cette idée de comment on peut penser aujourd'hui à une époque où justement on est toujours catégorisé dans une catégorie, quoi. Et justement, ça pose la question, est-ce que les Mourjites ne sont pas finalement ceux qui ont un peu inventé l'idée de liberté de pensée, c'est-à-dire que le fait que qui peut sonder les cœurs, seul Dieu finalement peut sonder les cœurs. Et que tu peux faire effectivement les actes, à mon avis les actes comptaient aussi pour les Mourjites, mais ces actes-là, c'est pas à quelqu'un d'autre, je dirais, peut-être de les juger en fait. C'est simplement des choses qui sont là, c'est une situation très intime, très mystique entre le fidèle et Dieu, donc on peut pas... personne en fait n'a le droit finalement, et encore pire quand il y a des conséquences juridiques, parce que là on est dans un cadre laïque, il n'y a pas de conséquences juridiques, on est seulement dans des conséquences symboliques, mais déjà rien que là c'est fort en fait, c'est-à-dire de se faire traiter de mécréant, c'est quelque chose c'est une violence symbolique qui est énorme, parce qu'on nous menace de l'enfer, mais finalement qui a le droit de nous menacer de l'enfer si ce n'est Dieu? Donc il y a vraiment cette idée là mais effectivement dans les pays où la loi divine est la même que le droit positif, là on est dans des catégories où il y a des conséquences juridiques, et je dirais que c'est encore là un degré encore plus grave.
Donc bien sûr, le mourgisme, en fait ce qu'on sait du mourgisme, c'est ce qu'on en dit les opposants, tout simplement, parce que finalement on a comme le mentaliste, même si on a un peu plus de matière pour le mentaliste, on a encore quelques ouvrages. Dans le cas du mourgisme, on n'a rien, on a juste des accusations du sunnisme triomphant qui va faire la liste des versions déviantes de l'islam et dire voilà, ces gens-là sont des méchants, déviants et ne sont pas de bons musulmans. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir qui a l'autorité de décréter qu'une personne n'est pas musulmane. Et c'est là où la pensée mourgite est intéressante, effectivement. Donc là, c'est intéressant. En tout cas, merci d'avoir expliqué.
On fait un tour
On peut, hein.
Je sais pas qui.
On peut faire un tour pour là.
Si tu veux.
J'ai pas de questions. C'était très très clair, ouais. Très intéressant. Merci à vous.
Juste par rapport au Mourjia, ça serait bien aussi peut-être une étude aussi du contexte de ce courant de Mourjia, etc. Sachant que. À l'époque Umayyad, hein, les Mourjia, ils ont commencé. Les Kharijites, ils ont leur contexte. Je ne dis pas que c'était une ruse. En fait, à la bataille de Séfin, c'était une ruse de Amr ibn al-As, parce que les Soudalais allaient gagner la bataille.
C'était proche de la
victoire. Et Amr ibn al-As, il a demandé aux soldats de mettre le Coran
entre les deux.
Sur les pics des lances. Ouais. Et là aussi, hein, j'ai un doute personnel entre guillemets, c'est que est-ce qu'il y avait des Corans comme aujourd'hui bien distribués, tout ça, pour les mettre, et chaque soldat après avec lui, après pour le mettre. Ça, c'est une autre question, mais bon, l'essentiel, ce qu'on avait comme histoire, c'est qu'ils ont. L'essentiel, c'est pas le Coran, il est là ou il n'est pas là, mais ils ont dit, tiens, on va demander l'hukm ila al-Qur'an, c'est-à-dire à Dieu. Et c'est là où Ali, il a dit que oui, le Coran, il est là, mais c'est, le Coran, il ne parle pas. C'est les hommes qui le font parler.
Bien sûr.
Le Coran, ben al-dafatay mashaf la yantaq, yantaq bihi al-rijal. Il a dit aussi à ce moment-là, il a dit hier on les a combattus, les Bani Umayya, sur le Tanzil, quand il est descendu, ils étaient à Quraysh de Kufar, et aujourd'hui on va les combattre sur son ta'wil. C'est-à-dire l'explication. Là, il est. C'est à partir de là, en fait, chacun a son explication du Coran, de comment il voit les choses, etc. Et c'est là où il y a les Mourjia, ils étaient là, genre, ok, d'accord, laissez, c'est à la fin, c'est Dieu qui juge. l'être humain. Mais c'est bien ça, c'est ce qui se passe maintenant, vu qu'il n'y a pas de... Mais après, il y a quand même des gens qui vont... Celui qui va tuer, qu'est-ce qu'on en fait? Celui qui va voler, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a des actes pratiques qui poussent aussi des gens, d'autres courants à sortir.
Mais c'est ça, en fait, la remarque que tu as proposée, Evan, c'est que, effectivement, tu dis qui va juger? Qui va juger sur des actes qui ne touchent personne, qui ne touchent qu'à la personne elle-même? C'est vrai que personne n'a jugé.
C'est ça.
Mais
pour les règles sociales, c'est
pas la police qui est là pour juger le vol.
Il faut, distinguer deux types de règles. Il y a les règles rituelles.
Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence.
Oui, mais je sais, mais c'est bien le seul problème.
Ah. Oui, c'est le contexte, bien entendu.
Il faut distinguer les ibadats qui concernent les cultes, et là, c'est des choses qui sont vraiment qui sont très verticales entre Dieu et le fidèle, et les règles sociales qui, là, pour le coup, sont des règles horizontales, et il nous faut des règles sociales. Okay. Et là la punition, se réfléchir sur les sanctions, etc., c'est justifié, mais après... j'ai juste une question pour toi, Falker. Est-ce qu'il n'y a pas des moutazilites qui...
Il y a eu des rapprochements. Peut-être le cas le plus connu, c'est drôle parce que des fois on dit mais non, il n'était pas moutazilite, il était mourjite. D'autres vont dire oui, il était mourjite, mais pas, il était moutazilite. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est le statut du mourjisme qu'on doit poser. Pourquoi on n'a pas de texte aussi? Peut-être parce qu'il y a le mourjisme ne s'est jamais constitué comme une doctrine à part.
Oui,
c'est-à-dire que les gens, ils étaient, je sais pas moi, ils étaient. Hanafites, Malikites, Téchites, ou je ne sais pas ce qu'ils étaient. Et d'un autre côté, ils avaient une attitude mourjite, où ils disaient, on n'a pas à juger sur ces choses-là. Et donc, en fait, le mourjisme n'est pas comme le moutazilisme.
C'est pas une communauté.
C'est jamais construit comme une communauté. Mais c'était. N'importe qui pouvait être mourjite.
Ouais.
C'est pourquoi on peut trouver qu'il y avait des moutazilites qui étaient mourjites, ou d'autres qui étaient. Les Hanafites, beaucoup de Hanafites ont été accusés, je dis bien, parce que aujourd'hui, dans nos critères à nous, ce serait même plus naturel.
Des
philosophes aussi, oui, il y a beaucoup de gens. Et rien n'empêche qu'ils aient effectivement été, en même temps, pourquoi pas un Acharite, un Moutazilite, tous deux accusés de mourjisme, et effectivement, ils étaient mourjis. Peut-être que sur cet aspect-là, sur l'aspect Ibadat, ils étaient effectivement à dire.
C'était qui le Moutazilite là? C'est Jahnab, l'autre fois? Non,
c'était Béchelmer ici.
Ah?
D'ailleurs, jamais que Sarkozy, on ne sait quasiment rien de lui. Hein. C'est ça qui est assez. On ne sait pas grand-chose de cette personne.
Oui, si je suis très d'accord avec ce que Eva vient de dire. Oui, il y a un truc bizarre. je pense qu'il faut. C'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faudrait différencier trois aspects différents. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un est kuffar ou takfir vis-à-vis de Dieu?
Oui.
Est-ce qu'un humain peut décider si ou décider du takfir de quelqu'un ou pas? Et est-ce qu'on peut punir un acte blâmable ou pas? Je prends l'exemple de quelqu'un qui commet un meurtre ou qui est accusé de commettre un meurtre, qui est condamné pour avoir commis ce meurtre. Personne. Et donc, décréter, takfir, tout ce qu'on veut, que je ne peux pas imaginer que si, en fait, il n'a pas commis ce meurtre, Dieu va le considérer comme kafir quand il va se présenter aux portes du paradis ou de l'enfer le jour du jugement. Mmh. Donc, à mon avis, il y a trois choses qui sont tout à fait différentes. De toute façon, c'est Dieu, mais c'est mon point de vue, hein. De toute façon, c'est Dieu qui, en fin de compte, va définir, décider qui est kafir, je sais pas. À l'autre extrême, il y a l'obligation forcément sociale de punir les crimes, mais qui n'est pas nécessairement liée au fait que Dieu va décréter quelqu'un kafir ou pas. Et entre les deux, il y a la question, est-ce que, en sus de décréter que quelqu'un coupable d'un grave crime, est-ce qu'on peut, en tant qu'humain, le décréter, ou décréter son takfir? Personnellement, je ne pense pas, mais pour moi, ce sont trois choses tout à fait différentes, qu'il faut envisager également de manière différente.
Actuellement, oui, tu as raison. C'est, ça n'a pas de sens, oui. Comme l'a dit Bilal aussi. Mais à l'époque, il y avait tout un sens social aussi. Celui qui est kafir, il ne va pas être hérité, il va perdre la statue.
Il sortait c'est, de la société.
Voilà, il y a des conséquences pratiques. Il faut dire. Voilà.
C'est une paix qui existait dans énormément de sociétés médiévales ou pré-médiévales ou antiques. Rejeter ou exiler quelqu'un, c'était même dans les sociétés arabes pré-islamiques, l'exil est quasiment la plus grande peine. Certainement chez les vikings aussi, j'ai un peu étudié ça aussi. Chez les vikings, le pire qu'on pouvait faire, enfin les nordiques, on devrait plutôt dire, plutôt que les vikings, ils ne devenaient vikings que quand ils partaient en expédition. Mais bref, chez les nordiques, la peine la plus grave, c'était pas de tuer quelqu'un, c'était de l'exclure du clan. Et c'était le pire qu'on pouvait faire. Un meurtrier, on l'exclut, on ne tue pas.
Il n'ira pas au Valhalla après.
Oui.
Mais dans le christianisme, c'est pareil. Hein. Oui. Le pire, c'est l'anathème. C'est vraiment d'être complètement exclu.
Oui. Rejeté de la société.
Et ça a marché, et on arrivait à tenir les gens par rapport à ça. Bon, voilà. Comme l'a dit Bilal, ça a évolué maintenant, donc on essaie un peu de faire évoluer un peu certaines choses.
J'ai juste une mini-remarque, du coup, mais parce qu'on dit qu'aujourd'hui, ça n'a aucune incidence sur nos vies, parce qu'on est dans un pays un peu laïque, etc., mais... Ceci dit, la question des djihadistes et des terroristes, elle pose vraiment beaucoup de problèmes.
Les
terroristes, en fait, de manière.
Oui.
En fait, elle gêne en fait beaucoup les musulmans.
Ben oui, bien entendu. Aujourd'hui. Elle gêne beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Ouais.
Par exemple, représentants européens de l'islam disent ouais, c'est pas l'islam, ce sont pas des musulmans, mais on sait très bien que la théologie sunnite, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas sortir les gens de l'islam sauf s'ils sont accusés de shirk. Et là, vraiment, il y a des conditions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ici, dans ce cas précis, le problème, c'est qu'on ne peut pas décemment se dire que moi, je suis frère avec ce genre de personne, ou pareil pour tout musulman sensé. On n'arrive pas à considérer que ces personnes-là sont aussi musulmanes que soi. Et c'est là où je ne peux pas tout à fait être d'accord avec Eva, dans le sens où sinon ça serait trop facile. On dit ok, personne n'a l'autorité pour décréter pour juger une personne, mais à partir du moment où la personne a commis des actes tellement répréhensibles qu'on ne peut plus la reconnaître comme faisant partie de la communauté, ça poserait, donc je pense qu'il faut repenser la question dans sa globalité et pas dans des petits actes du quotidien ou des problèmes simplement. Oui.
Est-ce qu'en sachant concrètement de dire qu'on considère que le Daesh, c'est des coupards? Parce que eux, ils font pareil avec vous.
Mais je ne parle pas de coupards. Non.
Le point de Daesh, c'est qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont commis des crimes d'un point de vue purement juridique dans... Enfin, le fait de tuer est quelque chose de la loi humaine, là, pour le coup.
Tout à fait.
Bien entendu. Donc,
en fait, je dirais que qualifier de kafir ou pas, à la limite, c'est même pas la question. C'est-à-dire qu'ils sont condamnables du point de vue de nos lois humaines, en fait.
Bien sûr. Au niveau juridique,
au niveau juridique. Les savants musulmans éclairés, comme moi je connais bien Tariq Oubou, ils vous diront que ce sont des... qui sont dans l'islam, qui ne sont pas sortis de l'islam. Voilà, il ne faut pas...
C'est juste pour éviter un peu de dire ah c'est l'islam. C'est un peu ce discours là mais après il y a toujours des djihadistes, des radicalisés, des gens qui vont tuer l'autre parce qu'il est mécréant, parce qu'il n'est pas musulman et parce que j'ai le droit de le tuer. C'est ça le danger, et qu'il faut enlever ça.
Parce que c'est le manque de culture, ça.
Mais je vais inverser.
Non, je ne sors pas de l'islam. Je ne sors personne de l'islam, ou de le faire rentrer, d'ailleurs. C'est pas mon truc. Par contre, c'est ta raison. Mais c'est pas sortir Daesh de l'islam. Je m'en fous, moi, il n'est pas musulman. C'est juste essayer de sortir des gens, sortir nous-mêmes, d'éviter aussi de dire, on va revenir encore, il ne fait pas machin, alors il est kafir ou pas kafir. Bayna al-muslimi wal kufri tarku salat. Si tu ne fais pas la prière, tu es kafir. Ça veut dire quoi, kafir? Je peux tuer. Ah bon? Quand même, il faut qu'on passe de... Et c'est ça, il y a des gens qui gobent ça, il y a des gens qui croient à ça. plus, ça c'est juste les facilitateurs, c'est pas ça la base de tout. Ouais. Et après, on va te raconter, tu es attaqué en Syrie, l'Irak, machin, palestinien, il rajoute tout ça, c'est international. Il est un peu con, bah, il y va, hein. Il y va, il fait des conneries après. Pardon, guillemets, voilà.
Ouais, on est filmé là.
Ah oui. Bon, en fait.
Bon, on va diter après.
Le post, on fera la post-prod après.
Finalement, utilisée sur un plan politique.
Bah oui.
Finalement, plus elle est détournée même, mais bah utilisée oui. pour des fins.
Mais il y a aussi peut-être aussi, il y a une valeur morale. C'est-à-dire derrière l'idée, c'est-à-dire que la religion. Qu'est-ce qu'on conçoit? Comment on conçoit la religion? Est-ce qu'on conçoit la religion comme étant une sorte de posture? Oui, je crois que ça, je crois que ça, je fais mes prières, je fais du texte, machin. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça? Dans ce cas-là, après tout, parler de coffre,
par rapport. Ouais.
Ou alors, est-ce qu'elle a un impact, elle doit avoir un impact sur la vie, ouais. en ce sens où il y a un aspect pratico-pratique, où parce que je suis croyant, je me dois de bien agir. Et donc à partir de là, oui. si j'agis mal, quelque part ce que je fais, c'est que je dénie la religion dans son aspiration, dans son but, dans sa logique, dans sa cohérence elle-même. Ouais, en dehors de la question du rapport à Dieu.
Mais ça c'est subtil, parce que comme si on reprend tous les versets que Sofiane a évoqués et tous les sens oui. du mot, entre le voile, le fait d'être voilé, donc être voilé à quoi ? À Dieu qui est en nous. Le fait de ne pas être dans le remerciement, de ne pas être dans la gratitude. Mais ça, on est tous des couffards dans ce cas. Tu vois, enfin, où tu mets la barre? Parce que le mot est utilisé dans plein de sens différents. Donc pour moi, en fait, ça rejoint un petit peu le terme de péché quand on avait fait la séance sur le péché. Sauf que le péché, ça va être manquer la cible dans notre action. Donc, c'est vraiment une action en dehors des sentiers divins. Alors que pour moi, le kafir, c'est plutôt se voiler à Dieu dans une expérience intérieure. Mais on a tous des moments où on est des kafirs, en fait. Dans mon sens premier voilà. du mot. Donc après, effectivement, c'est devenu un instrument politique, mais si on revient au sens premier du mot.
Il n'y avait pas vraiment de takfir, quoi. C'est pas.
Oui, voilà. Oui. Comme tu l'as dit.
Comme d'habitude, on a détourné un terme qui est par esprit spirituel et purement, bah oui. Purement intérieur, le fait de se voiler des bienfaits divins par un instrument politique et juridique, en fait. Hein. C'est
oui, bien social. Pour répondre à ta question, Fakir, par rapport au. C'est vrai que l'action, avec ce que je crois, ce que je. Ma conception de la religion, etc. Après, il faut que ça se reflète dans mes actions. Il faut que quand je fais quelque chose, ça c'est vrai, et c'est très subtil aussi. C'est très difficile dans le sens, je ne sais pas si je fais du bien à quelqu'un, pourquoi je le fais? Parce que c'est de la religion. Ça m'enlève un peu mon côté humain. Je suis humain, je n'ai pas besoin de religion pour faire du bien. Simplement. Après, dans les actions, si tu veux parler peut-être de pratique, etc., là, c'est comme tu dis, chacun, je fais ma prière, je ne sais pas comment je pense. C'est un peu pour chacun, il a sa manière de voir les choses. Mais il ne faut pas enlever le côté aussi. Voilà.
Ce qui m'intéresse, et là, c'est en tant que prof de philo, tu vois. Pardon, je dis en tant qu'humain. Mais en tant qu'humain, quoi oui. En tant qu'humain, hop, si tu te diras, en tant qu'humain, je te vois, tu as un truc qui m'intéresse, je vais te défoncer. Hop, si t'as dit ça.
Oui,
quand il dit que l'homme est un loup pour l'homme et que la nature des rapports c'est la violence de tous contre tous, qu'est-ce que tu dis par humain? Toi tu dis parce que tu l'as. Je suis pas en train de te critiquer.
Attends. Je sais.
Je suis en train de te dire que en fait tu es dans une école de pensée. Je parle pas de religion par religion, mais dans une école de pensée tu dis d'humanisme. C'est-à-dire que oui. L'humain, tu dis c'est humain de faire ça. Parce qu'on est dans une culture ambiante qui a tout un discours sur l'humain.
Oui.
Mais dans d'autres contextes, on parlait du contexte, l'humain, il te dira « Ouh, fais attention l'humain oh, !»« Si tu le rencontres, change de trottoir !» Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est pour ça que tu dis « Ouais, mais après tout, pourquoi c'est la religion ?» C'est imagine la religion, l'islam en l'occurrence, mais c'est le cas pour toutes les religions, grandes religions connues, elles sont venues dans des contextes qui n'étaient pas du tout les nôtres. Les critères pour aider quelqu'un, les, c'est quoi aider quelqu'un? Tu vois quelqu'un qui crève de faim dans la rue, bah c'est normal. D'ailleurs, ça l'est aussi. Donc la question c'est, tu vois, quand tu dis agir en humain, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais après, la religion, comme tu as le via, ça change un peu. À Quraysh, Voilà, il y avait des esclaves, la femme n'a pas aucun droit, etc. Et ce que l'islam, il est venu libérer la femme, enlever un peu les esclaves, etc. Au début, ça a marché bien. Mais après, ça s'est coincé. C'est la religion aussi. C'est parce que c'est nous, c'est les gens, à un certain contexte, ils ont arrêté la femme, on s'en fout. Et les esclaves, il y a de l'argent dedans. Regardez, il y en a même qui disent qu'il faut qu'il y ait des esclaves, parce que dans le Coran, et c'est, je l'ai dit tout à l'heure le verset, si jamais tu fais un truc, un des kafarat pour... il faut libérer. Il est où pour l'esclave pour le libérer.
Il faut
des esclaves.
Il y en a, oui, c'est vrai.
C'est une interprétation. C'est ce qu'on appelle... Non, mais c'est ce qu'on appelle juste une interprétation du Coran. Qui peut être valable ou pas valable.
Bien sûr, c'était tout à fait normal.
On en revient à la même question qu'on a relevée tout à l'heure. C'est la question de la politisation. En fait.
Voilà.
Si on était resté dans un volet purement spirituel, un rapport au texte purement spirituel, sans rentrer dans une. Non, moi j'en sais rien. Là, on fait un peu de roman d'anticipation, ce que j'adore.
Mais on fait de la réflexion, c'est bien.
Qu'est-ce qui se serait passé si Abou Bakr n'était pas rentré dans une logique de Hurub al-Rida, s'il avait dit après tout c'est vrai, je ne suis pas le prophète.
Eh bien ça c'était un acte
qu'est-ce
politique.
Qu'est-ce qui s'est passé s'il avait dit
C'est un acte politique. Omar ibn al-Khattab n'était pas d'accord. Le calife Omar n'était pas d'accord sur ceux qui ne donnaient pas un zakat, il ne fallait pas. Les autres, parce qu'il n'y en avait pas, il y avait ceux Murtadin, il y a ceux qui ne donnaient pas zakat, c'était différent. Il faut revenir quand même au contexte. Omar Pratam a dit ceux-là, oui, ceux-là pour le zakat, c'est pas grave. Alors qu'il a dit non, tous. C'était un acte politique qui devenait un acte religieux. Al-Murtadin, celui qui ne donne pas la zakat, il faut le tuer parce qu'Abou Bakr, il a fait la guerre à ceux qui.
Mais vu les, à l'époque, est-ce qu'on peut penser aussi que les choses auraient pu tourner autrement?
Je pense qu'un autre aurait pris sa place.
Oui, mais c'est ça. C'est ce que je me dis finalement. Ça se trouve, Omar il dit ça, mais si Omar il se retrouvait à la tête en se disant ah, mais peut-être que là.
C'est un acte politique, c'est un chef qui a décidé parce que. Voilà. Omar, quand il était calife, c'est pas. Al-Mu'allafa Qulubuhum, vous connaissez? Comment on appelle ça en français? Al-Mu'allafa Qulubuhum, c'est des gens. À l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils leur donnaient de l'argent pour devenir musulmans. Ils achetaient leur islam, ou je ne sais pas comment vous le dites, l'essentiel, ils leur donnaient de l'argent pour qu'ils deviennent musulmans.
C'est le cas de la bataille de Hunayn.
Par exemple.
La bataille de Hunayn, là, c'est
une répartition inégalitaire dans le tribu des razzias.
Voilà.
Et donc, dans un sens. D'abord, il parle du jeu.
Voilà,
c'était destiné à consolider des liens entre tribus, à faire adhérer à l'islam des tribus puissantes pour consolider.
Les Omeyyades en Afrique du Nord.
Voilà, même l'Arabie Saoudite, elle le fait en Afrique d'ailleurs. Elle a acheté des musulmans. Oui, mais c'est un acte politique, c'est pas grave. L'essentiel, Omar ibn al-Khattab, du moment que c'est pas religieux. Omar ibn al-Khattab, il a arrêté ça. Et ils lui ont dit comment ça le prophète, il le faisait. Et toi, tu vas l'arrêter. Il y a des temps, à l'époque, l'islam n'était pas fort. On était obligé de ramener des liens, des tribus avec nous, au cas où. Et là, on a la Syrie, la Perse, l'Égypte, on a des machins. Je m'en fous, je ne leur donne pas. Ça y est, il a arrêté ça parce qu'on n'a pas besoin. C'est un acte politique, ce n'est pas de la religion. Alors que les gens, après, ils rendent tout religieux. Là aussi.
Et donc aujourd'hui, on fait la même chose avec l'argent, en fait. Tous les débats sur l'ISF, par exemple, c'est la même chose. On paye les riches pour qu'ils restent en France.
Voilà.
On sait qu'à un moment, dès qu'on aura suffisamment de riches en France, on arrêtera tous ces jeux d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et c'est pas religieux. C'est juste que dans la population, on a envie de voir certaines personnes plus que d'autres pour des enjeux qui dépassent un peu...
Sauf qu'ils partaient par les riches, les statistiques sont...
C'est clair. On serait obligé de payer les SF tout de suite. Quand il en sera.
Aux États-Unis, pour rester sur ce débat, même si on s'égare un petit peu, hein, la citoyenneté est liée aussi à l'imposition. En gros, si tu veux t'expatrier,
tu payes l'impôt,
soit tu deviens... payes une partie de l'impôt que tu aurais dû payer aux États-Unis au fisc américain, ou alors tu renonces à ta nationalité américaine.
Bah, oui, bah, c'est une politique.
Et c'est aussi, en fait, c'est la question, juste pour retourner, pour ne pas faire gilet jaune dans l'Italie.
C'est un peu les gilets jaunes de l'islam. Je ne sais plus si c'est
non, mais en fait, plus, ça. Cette question-là, de ce réflexe qui est effectivement humain, en fait, hein, c'est très anthropologique, tout ça, de constamment utiliser la religion pour justifier des éléments politiques, financiers, etc., juridiques. C'est aussi le lien au sacré, c'est qu'on a toujours besoin, pour justifier quelque chose, il faut que ce soit sacré en fait. Ouais. Ouais. Il faut qu'il soit intouchable.
Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de.
Ce point de vue-là est génial en termes d'explication. Hein. Il explique qu'une darwa a toujours besoin d'une légitimation idéologique. Et la religion a toujours été un puissant vecteur de consolidation d'une race à vivre, d'un esprit de corps au départ, hein, d'un groupe qui cherche à prendre le pouvoir. Et qui a besoin de rallier à lui un maximum de personnes. Et de ce point de vue-là, la darwa, ce qu'il appelle, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par idéologie, parce qu'il a toujours besoin d'un substrat idéologique, en l'occurrence religieux, pour consolider son pouvoir. Avant qu'un autre groupe.
Pour aller vraiment dans ce sens-là, parce que j'ai fait un travail à la fac, si tu as dit ça, je suis revenu dans mon travail à la fac, j'avais travaillé sur les religions et la guerre. En fait, c'était. J'ai travaillé sur les conceptions. Que disent les religions sur la guerre? Donc les religions monothéistes, christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, jainisme et je sais plus quoi, taoïsme et quelques autres religions. Et en fait, ce qui est, en fait, il y a, c'est commun à tous parce que c'est humain en fait. Vous avez votre voisin qui a, pardon?
Humain dans quel sens?
Voilà, tu as raison. C'est vrai que je suis. Le philosophe est dans les filets du langage, disait Nietzsche. Là, qu'est-ce qu'il disait l'auteur du livre, il s'appelle Pierre Crépon, Les religions et la guerre. C'est un converti au bouddhisme, en fait. C'est intéressant parce qu'il parle bien aussi du bouddhisme, des cas dans le bouddhisme. Il dit, voilà, j'ai le voisin en face de chez moi, là, il a dans son jardin et il trouve une mine d'or. Mais légalement, enfin moi, légitimement, je n'ai... J'ai aucun prétexte pour lui déclarer la guerre, pour dire « Ah, mais en fait, c'est mon jardin, je vais dégager de là parce que normalement, ça m'appartient. » Je regarde à droite, à gauche, j'ai aucune légitimité, je peux rien dire. Or, si je vais l'agresser, tout le monde va se retourner contre moi. Je dirais « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Par contre, qu'est-ce que je peux mobiliser tout le temps? La notion du sacré, la notion de l'appel, la notion du bien universel et commun. Et là, c'est marrant, entre guillemets, quand c'est marrant, c'est que on retrouve ça dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, en fait, dans partout. La seule religion, parce qu'en fait, il prend le cas aussi d'analyser les religions qui étaient pacifistes. C'est-à-dire que dès le départ, il disait, ou bien, si tu te convertis à ma religion, tu jettes les armes. C'était le cas du christianisme initial. Le christianisme primitif est une religion de pacifistes. Les légionnaires qui se convertissaient abandonnaient leur métier. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand beaucoup de gens se convertissaient, ils ont dit, bon, ou bien on dit, ok, pas de soldats chrétiens, mais dans ce cas-là, si jamais on a une réaction, bah, tout le monde se fait terrasser puis c'est réglé. Ou alors, on essaie de penser. Et donc, Saint-Augustin, il a commencé à penser la guerre juste. Saint-Augustin, il a pensé la guerre juste. À partir de Saint-Augustin, on a commencé à aller crescendo, puis après il y a eu le tournoi avec saint Thomas d'Aquin, et puis ensuite, bon, après ça a ouvert à tout, hein, l'Inquisition. Celui qui est vraiment connu pour avoir théorisé la guerre juste de la guerre, c'est vraiment.
Saint Augustin,
c'est juste. Juste un truc, c'est que. Une autre religion.
Il est chinois en plus.
Il disait il y a des religions qui étaient pacifistes, c'est le christianisme. Tu sais, le christianisme qui vont finalement changer parce qu'ils sont en contact des gens et puis ils vont se dire bon, il faut changer. Et puis il va dire qu'il y a une religion, la seule religion qui était pacifiste et qui le reste, excusez-moi, côté berbère.
Pardon. Hein,
je respecte tout à fait mes amis berbères. Oui, je sais, je suis encore entouré. Mais le truc qu'il disait, c'est que la seule religion qui était pacifiste et qui est restée pacifiste, c'est le jainisme. En Inde. Les Jains, eux, ils sont dans une logique, mais même ils mettent une voilette sur la bouche pour pas avaler un insecte sans faire exprès. Quand ils marchent très lentement, parce qu'au moment où ils vont poser le pied, ils regardent s'il n'y a
c'est
pas avalé
quelque chose
vivant. Donc c'est vraiment. Et c'est les seuls. Tout le monde. Et il y a des religions qui, dès le départ, elles ont dit nous, on prend en considération les êtres humains comment ils sont. Hein, par rapport à tout à l'heure.
Mais après, l'humaine, quand j'utilise le mot une action humaine, ça m'a la mon humanité. Bien évidemment, je l'utilise un peu dans le sens utilisé actuellement.
Bah, évidemment, voilà, je sais bien.
Exactement, donc tu as bien compris ce que je voulais dire.
Oui,
dans le sens,
oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'était...
C'est comme l'autre, j'ai entendu un cher, je ne sais pas qui, bon, je ne sais pas son nom, parler, expliquer aux gens quand, les wajillah, ça veut dire quoi. Et puis, t'as Sama, quand tu souris à ta maman, il ne faut pas que tu penses que c'est ta maman, il faut que tu le penses à Dieu. Mais c'est grave, ça. Pas pour ta tête,
mais... Je peux pas pour ta gueule.
À un moment donné, une jeune fille lui dit, dans toute innocence, elle dit, mais je peux pas, moi, sourire à maman, je pense pas à ma maman, quoi, je pense à Dieu.
C'est pas que frère maman, si jamais tu vois...
Ben non,
maman,
lui a dit non.
C'est pas ta maman.
En fait, c'est des choses comme ça, où laissez cette humanité, entre guillemets, qu'on est maintenant, nous-mêmes, là, sont... tout mettre dans la sauce de la religion. Tout dans la religion. Quand on parle d'héritage entre la femme et l'homme, c'est le Coran, il a dit, oh, mais c'est pas grave, il l'a dit il y a 14 siècles. Dans un contexte, c'est plus le même contexte maintenant, c'est différent, évoluant. Le Coran n'a jamais arrêté toutes les choses, il a dit, tu fais ceci, tu arrêtes. C'était quelque chose par l'alcool. Hamza, l'oncle de prophète, c'était un grand ivrogne. Hamza, Amidine, il buvait. Il n'y a pas de mal, c'était petit à petit, par étape, et dans un sens. Les compagnons comprenaient tous ces sens-là. Et nous, on a perdu ce sens-là, cette continuité. Les Mu'tazilites, dommage, ils n'avaient pas pris le pouvoir. Ils ont bien ouvert la bonne porte.
Pourquoi la politique
pas très longtemps.
Voilà, utiliser un peu la raison, dans le sens, en réfléchissant sur ces actes, réfléchissant ce qui est bien, sans aller à l'encontre de Dieu, n'est rien. Mais tout ça, c'est parti, c'est resté que le littéralisme, il faut faire ceci, cela. À chaque fois, je te sors un hadith, je te sors un verset. Pour n'importe quoi, je te sors un hadith ou un verset. Et les versets, les hadiths, je vous le dis tout de suite, chacun a son interprétation. Je peux interpréter le verset comme je veux. Dans un sens, vers son compte.
Comme n'importe quel texte.
Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une question effectivement politique et finalement humaine, parce que moi, d'après toutes les occurrences que tu as restituées du mot kafara et toutes les différentes définitions et ce que ça voulait dire... J'ai pas l'impression que Dieu lui-même sort des êtres humains, de ses créatures, de sa propre religion, à part peut-être la question du shirk pour lequel un jugement qui est clair, etc. Mais finalement, c'est juste une problématique humaine. Quoi. Enfin, c'est,
tout simplement. C'est juste à moi.
Mordi,
c'est
ça.
Kafara, le terme, il a la même étymologie que kippour en hébreu.
Ah oui,
ouais. C'est la même étymologie.
C'est l'expiation, le jour de l'expiation.
Exactement. Qui pour la même étymologie sémitique.
Ouais, c'est pour ça que je parlais de Rafara aussi, donc la GFR, fait c'est recouvrir, mais là recouvrir les fautes plutôt. Donc c'est dans un sens positif. Mais c'est plus ou moins la même racine. C'est là où c'est intéressant. Les termes arabes sont.
Tout dans le droit musulman. Kafara, c'est aussi un moyen d'expier un péché parce qu'on a. On a raté un jour de jeûne. Voilà,
kafara, j'avais des expiations.
Il y a matière à nourrir, rattraper, nourrir un pauvre, tout ça.
Il y a aussi la langue arabe, la langue du Coran, qu'on dit c'est la langue arabe. En fait, il y a beaucoup de mots dans le Coran qui n'étaient pas arabes d'origine, mais c'est pas grave, toutes les langues. Ont une origine quelque part et ça change, c'est pas...
Certains termes sont empruntés.
C'était juste Shafi'i qui a dit, l'imam Shafi'i qui a dit que non, c'est le Coran, c'est de l'arabe. Tous les mots qui sont dans le Coran, c'est de l'arabe. Même
en
le
se
mot...
sur le deuxième verset de Surat al-Kahf.
Voilà. Et comme il y avait cette subtilité, il n'y a pas tous les mots qui étaient bien compris, surtout quand l'islam s'est développé vers d'autres cultures qui n'étaient pas des arabophones. Nasser Hamdabouzi disait que celui qui lit le Coran, c'est un arabe. Un arabe de Quraysh en plus, hein, parce qu'il y avait cette langue,
cette dialecte,
et ils ont gardé celui de Quraysh seulement. Un arabe qui lit le Coran, c'est pas comme quelqu'un qui n'est pas arabe qui lit le Coran. À ce moment-là, c'est pas... Quand tu, celui qui
c'est
lit,
bon, tu peux te lâcher.
Ah, super. Celui qui lit le Coran.
Soyez tous merde.
C'est toujours enregistré. La renaissance de l'islam.
Oui, mais ça va, tu le dis.
Celui qui lit. Rapidement. C'est bien pour le moins. T'as élu ça. Celui qui lit le Coran, étant arabe, il a sa compréhension. Celui qui lit le Coran, il apprend l'arabe, mais il lit le Coran, il connaît pas très bien l'arabe. Il utilise sa logique pour comprendre. C'est pas la même utilisation. C'est pour ça quand l'islam s'est développé vers d'autres cultures, c'est là où il y avait l'âge d'or de l'islam. Il y avait cette on essayait d'aller au sens. C'est pas d'accepter exactement ce dit comme ça, c'est dit comme ça. Et c'est là où Taha Hussein dans son livre Fil Adab Sha'r Jahili, qu'avant s'appelait Fil Sha'r Jahili, il a bien expliqué que il y a beaucoup de sha'r de poésie pré-islamique qui a été modifié pour expliquer certains versets dans un sens idéologique. Voilà.
Ah bah, de toute façon, dès qu'on sort dès qu'on arrête de dire que le Coran c'est pas de l'arabe pure, c'est beau, hein, la controversé. Donc à ce niveau-là, il y a très peu de textes sur le Coran qui sont pas controversés.
Sauf si on parlait de Taha Hussein.
Oui, mais Taha Hussein, c'est comme dans Sahih Ahmed Abu Zayd.
Par ailleurs, le débat s'est posé du vivant même du prophète. Hein.
Bah oui.
Abu Talib, son oncle, n'est jamais converti à l'islam.
Bah oui.
Il a dit, il est en enfer ou pas alors?
Ah oui,
est-ce
qu'ils disent les sunnites sur ça? Non, je ne connais pas le reste. Ils disaient qu'Abu Talib, donc le prophète, qu'il a toujours protégé, qu'il a fait plus que tous les autres pour l'islam, eh ben, il serait en enfer. Mais c'est le moins torturé dans l'enfer.
Il aurait juste des chaussures.
On lui a mettre un petit. Comment on appelle ça? Une braise, Jamra.
Juste sur
l'orteil.
C'est rien ça.
Et son cerveau va bouillir.
Qui a fait ça?
C'est dans la sira.
De l'oncle de
Abu Talib.
Il a protégé, mais c'est jamais converti. Donc c'est la pas question s'est posée du vivant même du prophète. Mais lui a dit, il est où? Il est en enfer ou pas alors?
La maman du prophète.
Il est pas aussi.
La maman du prophète, le père du prophète.
Il a le châtiment le plus light qui puisse exister.
Il y a un verset dans le Coran où le prophète, il voulait. C'est sa maman quand même.
À la différence.
Non, il a dit l'interdit man ahbabt. Il faut pas. Il faisait des sterfa pour sa maman dans le Coran. Il dit non, tu fais pas des sterfa pour ta maman parce que c'est pas une musulmane. Ça c'est la sira, hein, la sira qui raconte ça. Après c'est.
Bah oui,
forcément. Mais non, eux c'était les. C'est... En fait, dans l'histoire, remarquez bien, il y a déjà le jahiliya avant l'islam, c'était des nuls, c'était. Voilà.
Mais clairement une opposition vis-à-vis de l'ancienne culture, hein, donc on voulait vraiment c'est pour ça que croire stricto sensu ce qu'on racontait sur les Quraysh, moi j'y crois à moitié, moi personnellement, parce que là il y avait clairement un intérêt de montrer que Jahiliya était décadente, etc., alors qu'on sait d'après
certaines études que c'était pas tout à fait le cas. Ça c'est la mentalité arabe, quand je dis arabe pour Quraysh, hein, arabe vraiment arabe, la mentalité arabe. La mentalité arabe, dans le sens, c'était une culture orale, qu'ils utilisaient la poésie pour se battre par la poésie. C'est-à-dire, je mets un poème pour te casser, je mets un poème pour te relever, etc. Ibn Khaldun l'a expliqué dans son livre Al-Muqaddima, rabaisser l'autre pour se faire valoir. D'accord. Rabaisser l'époque al-Jahiliya pour faire valoir.
Tous ceux qui travaillent avec les adolescents connaissent ça.
Ah oui,
Pour conclure, j'ai un très beau hadith.
Les côtés adolescents,
celui qui a fait son frère de coffre,
t'imagines. C'est un très beau hadith.
Pourquoi
tu l'as pas cité?
Bah oui, c'est vrai, je l'ai pas cité, effectivement. Il y a un très beau hadith qui dit celui qui accuse son frère musulman de kafir, c'est comme s'il l'avait tué.
Mais comme il ne le considère plus comme son frère.
Voilà.
Bah oui,
du coup, bien entendu. Voilà. Donc, du coup, il peut, oui.
Moi, je voudrais juste revenir sur un petit point. Est-ce qu'il y a un lien, enfin, il me semble que j'ai perçu un lien entre les mots Jaha,
oui,
qui parle donc de cette histoire de personne ne peut juger un être humain, ouais. Il y a Dieu qui peut le faire, par rapport au Khawarij. Ils disent que justement que le hukm, c'est pas le khalil qui doit le faire, mais
c'est Dieu.
Donc, est-ce qu'il y a un lien?
Non, parce que le khalif, c'est Dieu, c'est-à-dire qu'on doit, gouverner avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un. En fait, c'était dans ce sens-là que les khawarij l'ont dit. Hein. on doit gouverner avec la parole divine.
Donc c'était... On ne peut pas dire qu'il ne gouvernait pas avec la parole divine.
Mais je ne donne pas raison, Khawale, je ne suis pas karigite. Effectivement, ils avaient tort.
Il a appliqué des hommes, ils ont mis des hommes face à la bataille, ils ne se sont pas mis d'accord.
Mais ils se sont fait piéger avec la Coran.
Ben, ils ont arrêté, ils ont mis le Coran. Ils ont dit, tiens, on va désigner de vous et de nous quelques-uns qui vont donner l'ordre, qu'est-ce qui va se passer. Ils ont fait un arbitrage aux hommes. Et ceux qui étaient avec Ali, ils ont dit, non, comment tu donnes un arbitrage aux hommes alors que c'est Dieu qui devait, c'est à la parole de Dieu.
Ça veut dire vous devez vous battre jusqu'à ce qu'il y ait une des parties qui prenne le dessus. C'était un peu de ça, en fait.
Qui bat l'autre, et du coup, c'est la partie qui gagne la guerre, finalement, le combat qui devient...
C'est Dieu qui l'a aidé.
C'est Dieu aidé, c'était dans ce sens-là.
Et en fait, comme Ali, c'est lui qui allait gagner la bataille. Il était en train de gagner. C'est pour ça qu'Abd al-Bahra est
revenu. C'était une ruse idéologique.
Il était en train de gagner, et quand ils lui ont dit « t'as accepté alors que t'es en train de gagner », c'est-à-dire que tu as accepté le jugement des hommes alors que, le jugement divin allait dans ton sens.
Voilà, alors que Dieu était de ton côté. Voilà.
Quelque part, ce que tu viens de faire, tu viens de kafart.
Bah oui.
Tu as renié, tu as dénié.
Il a perdu la bataille.
Et donc, en fait, tu es devenu.
Il a perdu la guerre.
Il a perdu la bataille.
C'est un Khawarij qui l'a tué.
Un Kharidite. Ils disent que c'est un Kharidite qui l'a tué. Officiellement.